Conan Doyle, le grand moteur Brown Péricore. C'était un soir brumeux et froid du mois de mai. Il faisait un brouillard intense. Les réverbères ne se signalaient le long du Strand que par de faibles halos lumineux. Les devantures des magasins, pourtant inondées d'électricité, perçaient à peine l'atmosphère d'une lueur indécise. Les hautes maisons qui bordent mélancoliquement le trottoir étaient sombres, sauf l'une d'elles, où trois fenêtres au second étage brillaient d'un éclat surprenant. Les passants levaient le nez et se montraient ses croisées lumineuses. C'était là qu'habitait Francis Péricore, inventeur et ingénieur électricien. Jusqu'à une heure avancée de la nuit, la lumière de son cabinet de travail témoignait du labeur acharné de ce grand homme de demain. Si les passants avaient pu jeter un coup d'œil indiscret dans l'appartement, ils y eussent vu deux hommes. L'un, Péricore lui-même, à la figure d'oiseau de proie, aux membres anguleux, aux cheveux noirs, décelant son origine celtique, et l'autre, vigoureux et plantureux, à l'œil bleu, Jeremy Brown, le mécanicien réputé. Ils étaient associés pour plusieurs inventions. Le génie créateur de l'un avait été puissamment aidé par les facultés pratiques de l'autre. Si Brown se trouvait si tard dans l'atelier de Péricore, c'était pour un essai qui allait décider de l'échec ou de la réussite de nombreux mois de recherche. Entre eux, une longue table brune, souillée, corrodée par les acides et encombrée de tours énormes, d'accumulateurs, de piles voltaïques, de bobines d'induction et de gros blocs de porcelaine, pour l'interception des courants. Au milieu de cet amas confus, se dressait une machine d'aspect singulier qui tournait en ronflant et sur laquelle les deux associés fixaient ardemment les yeux. Des fils multiples rattachaient un petit réceptacle carré en métal à un large cercle d'acier muni de chaque côté de deux puissantes articulations en saillie. Le cercle était immobile, mais les deux articulations, ainsi que les bras courts dont elles étaient pourvues, tournaient avec une vitesse effrayante à des intervalles de quelques secondes et s'arrêtaient un instant après chaque tour de la mécanique. La force motrice qui les animait provenait évidemment de la boîte métallique. Une subtile odeur d'ozone flottait dans l'air. Chapitre 2. Les susceptibilités d'un inventeur. Première querelle. « Eh bien, Brown, et ses ailes ?» demanda l'inventeur. « Elles sont trop grandes. Je n'ai pas pu les apporter. Elles ont 2,15 mètres de long sur 90 centimètres de large, mais le moteur est assez puissant pour les actionner, je vous en réponds. Elles sont en aluminium avec un alliage de cuivre. Oui. » Regardez comme cela fonctionne bien. Péricore étendit sa main nerveuse et maigre et il appuya sur un bouton qui commandait la machine. Les articulations tournèrent plus lentement et au bout d'un instant s'arrêtèrent net. Il pressa un autre ressort, les bras tremblèrent et l'appareil reprit son mouvement de rotation. « Celui qui fait l'expérience, observa Péricore, n'a besoin de dépenser aucune force musculaire. Il n'a qu'à rester passif et à se servir de son intelligence. »« Grâce à mon moteur, » dit Brown. « À notre moteur, » corrigea l'autre sèchement. « Certes, » répliqua son collègue avec impatience, « le moteur dont vous avez eu l'idée que j'ai mis à exécution. » Appelez-le comme vous voudrez. Je l'appelle le moteur Brown Péricore, s'écria l'inventeur, et ses yeux noirs eurent un éclair de haine. Vous avez parachevé les détails, mais la pensée abstraite m'appartient. Elle est à moi seul.
Mais ce n'est pas avec une pensée abstraite qu'on met en marche un moteur, remarqua Brown d'un ton bourru.
Bien, c'est pour cela que je me suis associé avec vous, riposta l'autre en tambourinant fiévreusement de ses doigts sur la table. Moi, j'invente et vous, vous construisez. La besogne est donc répartie d'une manière équitable. Brown pinça les lèvres, mais devinant qu'il était inutile de discuter, il reporta son attention sur l'appareil qui frémissait et oscillait à chaque tour de ses bras, comme s'il allait, d'un moment à l'autre, tomber de la table. Mais n'est-ce pas superbe? S'extasia Péricor.
C'est satisfaisant,
corrigea l'anglo-saxon plus flegmatique. Mais c'est une source d'immortalité.
C'est une source d'argent.
On inscrira nos noms à côté de celui des Montgolfier.
À côté de celui des Rothschild, j'espère.
Non, non, Brown, vous prenez la chose d'un point de vue trop prosaïque. Notre véritable récompense sera la gratitude du genre humain. Brown haussa les épaules.
Oh, quant à cela, je vous abandonne volontiers ma part. Je suis un homme pratique. Il va falloir mettre votre invention à l'essai.
Et où?
C'est justement de quoi je désirais vous entretenir. Il est indispensable de garder le secret le plus absolu. C'est impossible à Londres. Ah, si nous possédions un enclos réservé.
Essayons l'appareil à la campagne.
J'ai une proposition à vous faire. Mon frère a une propriété dans le Sussex, sur les hauteurs, auprès de Beachy Head. Il y a, je m'en souviens, auprès de la maison, une grange spacieuse et élevée. Mon frère est en Écosse, mais j'ai la clé à ma disposition. Transportons la machine là-bas dès demain pour essayer dans la grange.
Parfait.
Il y a un train pour Eastbourne à 1 heure.
Je serai à la gare.
Apportez le moteur, je me chargerai des ailes, dit-il en se levant. Le mécanicien. Nous aurons demain, si nous avons poursuivi une chimère ou si nous avons une fortune devant nous. Je vous attendrai à 1 heure à la gare de Victoria.
Il descendit rapidement l'escalier et ne tarda pas à être absorbé par le triste flot humain qui coulait dans le Strand. Le lendemain, il faisait une matinée printanière avec un joli ciel bleu pâle où glissaient de blancs nuages vaporeux. À 11 heures, on aurait pu voir entrer Brown au bureau des brevets avec un rouleau de diagrammes et de plans sur parchemin sous le bras. À midi, on aurait pu l'en voir sortir, radieux, ouvrir son portefeuille et y insérer avec beaucoup de soin un petit morceau de papier bleu officiel. À 1h05, il arrivait en fiacre à la gare de Victoria. Le cocher déchargea du toit de sa voiture 2 paquets gigantesques enveloppés de toile d'emballage qui ressemblaient à d'énormes cerfs-volants et que l'on confia aux soins du chef de train. Péricor se trouvait déjà au rendez-vous. Tout va bien? Demanda-t-il, et ses joues émaciées prirent une teinte rosée. Brown lui indiqua pour toute réponse les bagages.
J'ai déjà fait charger le moteur et le cercle dans le fourgon, expliqua Péricor.
Attention, ajouta-t-il en s'adressant au chef de train, ayez bien soin de ces colis, ce sont des appareils très fragiles et de grande valeur. Maintenant, nous pouvons partir la conscience tranquille. Dès l'arrivée à Eastbourne, le précieux moteur fut chargé sur un omnibus et l'on hissa les 2 ailes sur la galerie. Les associés durent faire un long trajet pour aller chercher les clés chez le gardien. Après quoi, ils se remirent en route vers les dunes arides. La maison, but de leur voyage, était un bâtiment d'aspect vulgaire, entouré d'étables et situé dans un renfoncement herbeux qui dévalait en pente douce depuis les falaises de craie. Avec l'aide du cocher, les voyageurs transportèrent leurs paquets en descendant le sentier et les déposèrent dans la salle à manger obscure. Le soleil se couchait quand le roulement lointain des roues leur annonça qu'ils étaient définitivement seuls. Chapitre 3. Une expérience secrète. Que va-t-il se passer? Péricor avait ouvert les persiennes et la faible lumière du soir entrait par les fenêtres aux carreaux de couleurs variées. Brown sortit un couteau de sa poche et coupa les ficelles qui retenaient la toile d'emballage. Deux grandes ailes jaunes en métal apparurent. Il les appuya contre le mur avec précaution. Il dépaquetait ensuite le cercle, les courroies de transmission et enfin le moteur. La nuit tomba avant que les deux hommes eussent eu le temps d'ajuster toutes les pièces. Ils allumèrent une lampe et continuèrent à serrer des écrous, à fixer des rivets et à faire les derniers préparatifs. « Voilà qui est fini !» dit enfin Brown en reculant pour mieux examiner l'ensemble de la machine. Péricor ne souffla un mot, mais son visage était illuminé d'orgueil et d'espoir. « Maintenant, nous allons manger !» dit Brown en étalant quelques provisions. « Ou après !» s'exclama Péricor. « Non, tout de suite, je meurs de faim !» Et le lourd mécanicien fit un repas copieux, tandis que son compagnon se promenait impatiemment de long en large, les mains crispées. « À nous deux, à présent !» dit Brown en époussetant les miettes. « Qu'est-ce qui va monter l'appareil ?»« Moi !» s'écria Péricor. « Ce que nous faisons ce soir a des chances pour devenir historique. »« Mais il y a un danger !» insinua Brown. « Nous ne savons pas au juste comment cela fonctionnera. »« Mais qu'importe !» Mais nous n'avons pas besoin de courir au-devant de la mort. Que prétendez-vous faire alors? Faut pourtant que l'un de nous deux se risque. Mais pas le moins du monde. Le moteur marcherait tout aussi bien si l'on y attachait un objet quelconque. Mais c'est vrai, admit Péricor. Nous avons des briques et un sac. Pourquoi ne pas remplir ce sac de briques et l'attacher à l'appareil à votre place? « Excellente idée. Allons-y alors !» Tous deux sortirent en emportant les différentes parties de leur machine. La lune brillait, froide et claire, bien que de temps à autre un lambeau de nuages passa devant elle. Les associés s'arrêtèrent un instant pour tendre l'oreille avant de pénétrer dans la grange, mais ils n'entendaient que le bruit de la mer et l'aboiement éloigné d'un chien. Tandis que Brown emplissait de briques un sac long et étroit, Péricor apportait de la salle à manger à la grange les objets dont il pouvait avoir besoin. Quand tout fut prêt, ils fermèrent la porte de la grange et placèrent une lampe sur une caisse vide. Le sac plein de briques fut posé sur deux tréteaux et ils attachèrent autour le grand cercle d'acier. Les larges ailes, les fils de fer et la boîte renfermant le moteur furent ensuite fixés à ce cercle. Enfin, ils accrochèrent au bas du sac un gouvernail plat en acier qui avait la forme d'une queue de poisson. « Bien, il va falloir lui faire décrire un cercle très restreint !» murmura Péricor. « Attachez le gouvernail d'un côté !» conseilla Brown. « Maintenant, nous y sommes. Appuyez sur la manette. » Péricor se pencha en avant. Sa figure maigre et allongée était contractée. Ses mains pâles et nerveuses coururent çà et là entre les fils de fer. Brown, impassible, suivait ses mouvements. La machine eut un déclenchement sec. Les énormes ailes jaunes s'entr'ouvrirent d'un battement convulsif, se refermèrent, se rouvrirent, eurent un deuxième battement, puis un troisième, avec un mouvement de plus en plus large et vif, puis un quatrième qui chassa avec violence l'air de la grange. Au cinquième, le sac de briques oscilla sur les tréteaux. Au sixième, il s'enleva. Il allait retomber quand le septième battement le souleva plus fort et l'emporta. La machine s'élevait et tournait lourdement sur elle-même comme un gros oiseau disgracieux, remplissant la grange de ses sifflements et de ses ronflements. Il était curieux de voir cette grande carcasse inélégante se mouvoir dans la lumière jaune et incertaine. Elle fuyait dans l'ombre et reparaissait dans les rayons vagues de la lampe. Les deux hommes restèrent un moment immobiles et silencieux. Enfin, Péricor leva les bras au ciel. « Il marche ! » s'écria-t-il. « Le moteur Brown Péricor marche !» Et dans sa joie, il se mit à danser comme un halluciné, tandis que Brown sifflotait joyeusement. Chapitre 4. Une rivalité qui cesse, et pour cause. Brown, regardez comme il fonctionne régulièrement, et comme le gouvernail dirige bien. Il faudra déposer dès demain les brevets au bureau des brevets. Le visage de Brown s'assombrit. « Mais ils sont !» déclara-t-il avec un sourire contraint. « Ils y sont !» répéta Péricor. « Ils y sont !» Et il hurlait. « Mais qui donc a osé déposer les plans que j'ai conçus ?»«
Moi, je vais faire ce matin même. Ne vous tourmentez pas, il n'y a pas de quoi s'emporter.
Vous avez pris un brevet pour le moteur, mais à quel nom ?»«
Ben, au mien. Il me semble que j'y avais droit. »
Et mon nom, il n'en est pas question?
Non, mais...
Oh, canaille! S'écria Péricor. Voleur, bandit! Mais vous m'avez pris mon idée, vous voulez usurper l'honneur qui me revient. J'aurai ce brevet, entendez-vous, quand bien même je devrais vous couper la gorge pour le reprendre. Ses yeux noirs lançaient des éclairs et ses mains se tordaient avec rage. Brown était courageux, et cependant il recula, tandis que l'autre s'avançait vers lui.
« Bas les mains !» commanda-t-il en sortant un couteau de sa poche. « Je me défendrai si vous m'attaquez !»«
Des menaces !» s'exclama Péricor, livide de fureur. « Vous seriez un assassin comme vous avez été un voleur. Allez, rendez-moi ce brevet !»«
Non !»«
Brown, encore une fois, rendez-le-moi !»
« Je vous ai dit non, c'est non. Le travail est de moi. »
Péricor bondit comme un fauve. Son adversaire s'arracha d'un violent effort à son étreinte, mais il buta contre la caisse vide et tomba. La lampe bascula, tomba également et s'éteignit. La grange fut plongée dans les ténèbres. Seul, un ray de lune, pénétrant à travers une fente étroite, vacillait sur les grandes ailes. « Voulez-vous me donner le brevet, Brown ?» Pas de réponse. « Voulez-vous me le donner, oui ou non ?» Pas de réponse. Nul bruit, sauf le bourdonnement et le grincement continu de l'appareil. Péricor, le cœur glacé d'angoisse, chercha dans les ténèbres à tâtons, et ses doigts se refermèrent sur une main. Elle était inanimée. Sa colère fit place à une horreur dont il trembla. Il frotta une allumette, ramassa la lampe et la ralluma. Brown était étendu sur le sol. Péricor le saisit dans ses bras et le souleva. Il eut alors l'explication de ce silence. Le malheureux était tombé le bras droit, replié sous lui, et son propre poids lui avait renfoncé profondément le couteau dans le corps. Il était mort sans un gémissement. Chapitre 5. La machine volante emporte un cadavre dans les airs. L'inventeur s'assit au bord de la caisse. Il regardait devant lui d'un œil hébété, tandis que le moteur Brown Péricor grondait et tournoyait au-dessus de sa tête. Il resta ainsi quelques minutes, quelques heures peut-être. Mille projets insensés se contredisaient dans sa cervelle affolée. Il n'avait été qu'indirectement cause de la mort de son compagnon, mais qui consentirait jamais à le croire? Ses vêtements étaient souillés de sang. Tout se retournait contre lui. Dieu valait finir. S'il pouvait se débarrasser du cadavre, il aurait quelques jours devant lui avant qu'on eût le moindre soupçon. Soudain, un craquement violent le fit sursauter. Le sac s'était élevé graduellement à chaque tour. Il venait de se heurter à une poutre. Le choc déplaça l'appareil de connexion et la machine tomba lourdement à terre. Péricord détacha le cercle. Le moteur était intact. Une pensée bizarre se fit jour dans son esprit tandis qu'il le regardait. Maintenant, la machine l'obsédait. Il pourrait s'en débarrasser en même temps que du cadavre, de façon à déjouer toutes les recherches. Il ouvrit la porte de la grange et transporta le corps de son compagnon dans le clair de lune. À quelque distance de là se trouvait un monticule. Quand Péricord fut parvenu à son sommet, il déposa le cadavre avec respect. Puis il retourna chercher dans la grange le moteur, le cercle et les ailes. De ses doigts défaillants, il fixa autour de la poitrine du mort la large ceinture d'acier. Puis il mit les ailes dans leurs emboîtures. En dessous, il suspendit le moteur, fixa les fils de fer et appuya sur la manette. Pendant une minute ou deux, les énormes ailes s'agitèrent et battirent. Puis le corps commença à bouger par petits bonds le long du flanc du monticule et s'éleva peu à peu jusqu'à planer dans la lumière blême de la lune. Péricord ne s'était pas servi du gouvernail, mais il avait tourné l'avant de la machine dans la direction du sud. Cela monta petit à petit dans l'espace, et la machine accéléra sa vitesse tant et si bien que le gros appareil dépassa bientôt la ligne des falaises et prit son essor vers la pleine mer. Péricord le regarda s'éloigner, jusqu'à ce qu'il eût plus l'air que d'un oiseau noir porté par les ailes d'or que la brume de l'océan enveloppait peu à peu. Dans l'asile des aliénés de l'État de New York est enfermé un individu au regard farouche dont on ignorait le nom et le lieu d'origine. Les médecins s'accordent à déclarer que ce malheureux a perdu la raison à la suite d'un choc brutal dont ils ne peuvent déterminer la nature. C'est toujours la machine la plus délicate qui se dérange le plus facilement, disent-ils. Et pour preuve de cet axiome, ils vous montrent les appareils électriques compliqués, les remarquables machines volantes que le malade se plaît à imaginer dans ses moments de lucidité.